Alors j'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 6 et versets 3 à 8. 1 Timothée 6 Il est dit ici, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voilà, sur ces textes que j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin, on va juste s'incliner encore une fois dans la prière. Seigneur, merci. Merci pour la communion, merci pour ces chants et merci pour le temps que nous avons déjà passé ensemble. Et nous prions et je te demande que tu veuilles bénir ces instants, Seigneur, que tu soutiennes, que tu portes, que tu m'aides à rester dépendant de toi et que tu veuilles te glorifier, Seigneur. Nous encourager, nous fortifier, Seigneur, et nous aider à marcher avec toi, à t'aimer davantage et à vivre pour toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Alors c'est bien sûr sur le contentement que j'aimerais vous parler ce matin. Alors j'ai été interpellé un jour en faisant la lecture d'un court passage d'un livre où il était question dans ce livre de l'esprit de Noël. On n'est pas à Noël, je sais, mais l'auteur disait qu'hélas, hein, ils n'ont pas l'esprit de Noël, les nombreux chrétiens qui limitent leur ambition à fonder un beau foyer chrétien bourgeois, à s'entourer de bons amis chrétiens bourgeois et à élever gentiment leurs enfants comme ils sied à de bons chrétiens bourgeois et à laisser se débrouiller comme ils peuvent tous les autres, chrétiens ou non. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, quelque chose. Et s'il y a quelque chose qui fait réellement du tort au corps de Jésus-Christ, à l'Église de Jésus-Christ, dans notre société occidentale, c'est la richesse, c'est l'abondance matérielle qui finit par nous empoisonner. Ça finit par nous empoisonner. On est habitué, hein, c'est vrai, à posséder, 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 toujours plus. Hein. C'est comme une épidémie qui touche les pays riches. Et c'est une épidémie insidieuse qui n'est pas dénoncée, qui n'est pas combattue, comme par exemple celle du sida, pas du tout. Au contraire, c'est une épidémie qui est développée, qui est encouragée, qui est stimulée. Voilà, on l'a fait croître. Pourquoi ? C'est indispensable à chaque pays. Si on veut que l'économie fonctionne, ben il faut développer. Hein. Et cette épidémie, on peut même dire qu'elle va jusqu'à empoisonner les pays qui sont un peu plus pauvres. Je parlais un jour avec un Camerounais qui me disait ils sont nombreux les Africains à vouloir venir en Europe, notamment, parce que pour eux ça représente la terre bénie. C'est la terre de Canaan où il y a tous les biens, toutes les possessions, on va pouvoir avoir des biens. C'est là où on ne manque de rien, mais ils ne se rendent pas compte, hein, comme les Européens d'ailleurs eux-mêmes ne se rendent pas compte que c'est une plaie quelque part. Il y a une plaie. C'est une maladie qui est nocive et qui fait que nous devenons égoïstes, nous devenons égocentriques, corrompus par les biens et les richesses. Et on peut dire que l'Église de Christ, elle n'est pas épargnée. Les chrétiens non plus, ils ne sont pas épargnés. C'est ce que Jésus reproche à la dernière Église de l'Apocalypse. Vous vous souvenez ? Laodicée. Donc, c'est dans l'Apocalypse, il y a 7 églises, des églises locales qui existaient donc il y a 2000 ans. Mais chacune vivait d'une certaine manière. Et il prend ces églises locales comme une image, finalement, de l'église de Jésus-Christ au travers du temps, au travers des siècles. Et vous pouvez prendre chaque église, ça correspond à une période de temps, les premiers siècles, hein, et puis après, 5e ou 7e, et puis on avance comme ça. Et la dernière église, c'est la nôtre, la Odyssée, qu'est-ce qu'il dit ? Jésus dit à cette église, « Tu dis, il dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà, c'est le constat de Dieu lui-même sur l'Église du 21e siècle. Elle possède tout, elle est riche matériellement, mais il dit qu'il lui manque tout, et parce qu'elle est souvent pauvre, spirituellement, elle est faible. Peut-être parce qu'on ne prie pas assez. Et c'est pour cela que Paul nous dit à tous que c'est une grande source de gain que la piété et le contentement. La piété et le contentement. Et Dieu veut donc expressément que nous, ses enfants, nous soyons différents du monde qui nous entoure. Et les deux traits par lesquels il veut que nous soyons différents, c'est la piété et c'est le contentement. Ces deux choses. Paul nous dit que c'est là une source de gain. Parce qu'il est riche, il est immensément riche, celui qui est pieux, celui qui aime Dieu et qui est heureux avec ce qu'il possède, sans en vouloir toujours plus et toujours plus. Et les deux vont ensemble, piété, contentement. On ne peut pas les dissocier. Parce que c'est vrai, si Dieu est notre tout suffisant, si c'est lui qui occupe toute notre vie, c'est lui que nous aimons le plus, alors on ne sera pas occupé à convoiter, à désirer toujours plus et toujours plus et toujours plus. Et c'est un défi pour nous chrétiens aujourd'hui de vivre une vie pieuse et simple dans un monde et une société qui nous crée des faux besoins. Sans cesse, on nous crée des faux besoins. On va essayer de faire germer en nous l'insatisfaction. On n'est pas bien, il faut mieux, il faut plus, il faut encore. Et Dieu nous rappelle ici ce qui est essentiel matériellement parlant. Il dit la nourriture et le vêtement. Si vous avez la nourriture et le vêtement, eh bien voilà, vous avez l'essentiel. Nourrir le corps et se protéger du froid, se couvrir. À noter ici qu'on a aussi une image de nos besoins vitaux spirituels. La nourriture, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Le vêtement, celui qui n'est pas couvert du vêtement de justice, il n'a rien. Il est nu, il est pauvre et il habitera loin de Dieu. Donc, on peut dire besoin physique, besoin spirituel, ce sont là les deux fondamentaux, la nourriture et le vêtement. Nourriture, vêtement, communion avec Dieu, c'est ce qu'on a besoin réellement. C'est ce que Luther disait lorsqu'il a composé le chant, c'est un rempart que notre Dieu. Luther, le réformateur, il compose ce chant au sein de la persécution. Il dit, il faudra bien que malgré tout subsiste la parole de Dieu. Car l'Éternel est avec nous. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Son esprit nous console. Qu'ils prennent tout, chrétiens. Notre vie et nos biens, laissons-les faire. Ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Et c'est sûr que dans le temps de la contre-réforme, surtout, les chrétiens vivaient certainement plus authentiquement leur foi en Jésus-Christ que nous ne pouvons le vivre, nous, aujourd'hui. Parce qu'il fallait souvent faire un choix entre ses biens ou sa foi. Vous savez, il y en a qui ils abandonnaient maison, terre et ils fuyaient. Parce que c'était soit je garde tout et je perds la vie, soit je lâche tout et je continue à vivre et à vivre pour le Seigneur. Et le choix demeure toujours pour nous. Même si on ne doit pas vivre de persécution, c'est vrai que nous, on est plutôt tranquille. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on fasse un choix. Soit on est rivé à nos biens, soit on est rivé à Jésus-Christ, à la personne de Jésus-Christ, qui est le maître de notre vie. Alors, Paul nous donne ici les dangers d'une vie qui serait attachée aux biens et à l'argent. Regardez le verset suivant, donc c'est 1 Timothée 6 et verset 9. Il dit... Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Alors, d'abord, on peut commencer par relever un peu les verbes de notre texte. Quels sont les verbes ? Il dit « ceux qui veulent s'enrichir tombent ». Et là, Jésus emploie le même verbe lorsqu'il parle de la brebis qui tombe dans une fosse un jour de sabbat. C'est le même verbe. Ou bien un bœuf qui tombe dans un puits. Tomber dans un puits. De la même manière, l'envie de posséder davantage nous fait tomber dans un puits. Le puits sans fond de la tentation. On se retrouve à désirer, envier, convoiter, il en faut plus et plus et plus. Paul nous parle de beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Et c'est vrai que souvent on ne s'en rend pas compte, mais le monde nous crée des faux besoins. Dieu veut toujours pourvoir à nos besoins réels, les besoins, un réel besoin. Mais le monde va susciter des faux besoins. Ce ne sont pas des besoins. Mais il va nous dire, vous en avez besoin. C'est nécessaire. On ne sait pas comment... ils font par un tour de passe-passe. Les publicistes, ils arrivent à vous créer des besoins. Vous en êtes toujours passé jusqu'à présent. Tout allait bien. Puis d'un seul coup, ça devient... mais alors vraiment, le truc, mais c'est miracle. C'est vraiment super. Ça va vous changer la vie. Ça va plus être pareil. Et Dieu nous dit « désir insensé et pernicieux ». Combien de choses, si vous réfléchissez un peu, vous regardez en arrière, combien de choses vous avez achetées en vous disant que ça allait vraiment être utile, quoi, et puis finalement c'est dans un coin, et puis ça termine à la poubelle. On nous a offert un jour, merci à ceux qui nous l'ont offert, ils nous ont offert un aspirateur électrique. Vous savez, les « super, top du top ». Ah ben, il est à la poubelle, parce que c'est pas au point, quoi. Finalement, ça aspire pas comme ça devrait aspirer, ça s'encrasse, enfin bref. On est revenu au bon vieux balai, impeccable. Ça s'use pas, ça se recharge, pas besoin de recharger, ça fait son travail, c'est ça qu'il faut, un bon vieux balai. Dieu dit, désir insensé et pernicieux. Alors je dis pas, c'est sûr qu'aujourd'hui, une ménagère pourrait pas faire sans la machine à laver. Il y a des choses qui sont vraiment utiles, mais... il y a aussi des choses, c'est pas au point. Désir insensé et pernicieux. Pourquoi ? Parce qu'il plonge les hommes dans la ruine et la perdition, nous dit la Bible. Les hommes plongent, semblable à un navire qui s'enfonce et qui coule. Il y a le pasteur Gary Inrig qui raconte qu'en 1873, 411 navires ont sombré dans les profondeurs des mers, emportant avec eux des centaines de vies. Pourquoi ? Parce que les armateurs étaient peu scrupuleux et chargeaient les navires, ils chargeaient bien au-delà de la ligne de flottaison. Ce qui fait que le navire partait et à la moindre tempête, il plongeait par le fond. Et de la même manière, les hommes de ce siècle se chargent de biens en quantité, ils n'en ont jamais assez. Et leur navire, il est en danger. Il part à la perdition. Et Dieu nous demande de ne pas leur ressembler. Alors, bien sûr, on peut se dire que nous, on ne risque pas d'aller à la perdition. Si on a accepté Jésus-Christ, on a le salut. C'est éternel, c'est définitif. Celui qui est sauvé, il est sauvé pour l'éternité. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de perte pour le chrétien qui charge son navire beaucoup plus qu'il ne faut. Pierre nous avertit. Il dit « Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Elles corrompent notre âme. » Donc il y a une perte aussi pour le chrétien quand on se charge et on se charge. Le fait de n'être jamais, jamais satisfait, jamais rassasié, contenté, mais au contraire de vouloir toujours plus, toujours, mais ça ralentit, ça freine, ça détruit l'œuvre de Dieu dans notre âme. C'est bien de se rappeler... Dieu ne vise pas notre confort. Dieu ne vise pas pour nous d'être parfaitement satisfaits matériellement. Il ne vise pas de nourrir tous nos désirs, toutes nos envies, mais il vise notre sanctification. C'est ce que Dieu dit. Ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Et c'est ce qui est précieux pour l'homme. Ce n'est pas les biens, mais c'est son âme. Et Dieu travaille sur l'âme. Il s'occupe de notre âme. Ça, c'est éternel. On va le garder pour l'éternité. Jésus l'a bien résumé. Il a dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Quoi ça sert ? C'est ce qu'on a de plus précieux. Et l'âme sanctifiée, l'âme qui est purifiée, l'âme pieuse, fidèle, heureuse, épanouie dans sa communion avec Dieu, eh bien, ça vaut plus que tout l'or du monde. Verset 10, verset suivant. Il dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Et les dangers de l'amour de l'argent, ils sont nombreux. Pour l'argent, c'est fou, quoi. L'homme, il est capable de faire des choses horribles, du pire. Il va détruire son ménage pour l'argent. Il va tromper son conjoint. Négliger ses enfants, ruiner sa santé, peut même vendre son âme. Il va offrir son corps, il va mépriser ses parents. Il va escroquer son prochain, il va vendre même sa propre famille. L'homme tuera pour l'argent, parfois sans scrupule. Maintenant, ce n'est pas l'argent lui-même qu'il faut incriminer, c'est plutôt l'amour de l'argent en fait. Pour l'amour de l'argent. Parce qu'il aime l'argent. Et on voit dans la Bible, il y a aussi des hommes qui étaient très très riches. Hein. Quand vous voyez Job, il avait des biens et des terres en quantité. Abraham était très riche. David, un roi, ben, il était dans l'opulence. Et pourtant, la Bible ne fait pas du tout de mention de cupidité chez eux ou d'avidité dans la vie de ces hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'aimaient pas l'argent plus que ça. Ils arrivaient à user de l'argent, mais sans devenir des esclaves et des prisonniers. Ils servaient l'Éternel et non leur argent. Mais la Bible dit « L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. » C'est vrai. Quand vous regardez le monde, hein, c'est quelque chose. Paul nous dit que ça nous prend et ça nous égare loin de la foi. Et donc, on ne peut pas concilier l'amour de l'argent et l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. Jésus dit « Il faut choisir. Soit c'est Dieu, soit c'est Mammon, un faux Dieu. Voilà, l'amour des richesses. » Les deux sont opposés, on ne peut servir deux maîtres, nous dit Jésus. Et un chrétien, il peut aussi dévisser quelque part de sa vie chrétienne, en sorte qu'il perd de vue son Seigneur pour ne plus rechercher que son confort, son bien-être. Il est malheureux. Et à ce moment-là, attention, quoi. Les tourments et qui s'en suivent, les peines qui s'en suivent. Dieu nous dit très clairement ce que nous devons faire. Dans Hébreux 13, 5, il dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Belle promesse, hein ? Au lieu de chercher à gagner, à posséder, et puis voilà, augmenter, Dieu nous dit « Contentez-vous. Soyez contents avec ce que vous avez. » Soyez content. Ailleurs, la Bible dit « Le cœur content est un festin perpétuel. » C'est vrai. Quand on est heureux et qu'on n'a besoin de rien, on est bien. Alors que, la Bible dit « L'envie est la carie des os. » Le fait d'envier toujours plus, ça nous rend malade. On tord les boyaux. Dieu nous promet « Je pourvoirai à tes besoins. » Besoin, tu ne manqueras de rien. Ensuite, après nous avoir exposé les dangers d'une vie attachée au bien matériel et à l'argent, Paul veut nous apprendre le contentement. Parce que le contentement, ce n'est pas quelque chose d'inné, mais c'est quelque chose qui s'apprend. C'est ce que a dit Paul. Il a dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » J'ai appris à être content. Lui, il était au départ d'une bonne famille, Paul. Hein. Certainement une famille aisée, il manquait de rien, il était dans l'abondance, mais il s'est converti à Jésus-Christ. Et là, sa conversion, ça a changé beaucoup de choses. Il s'est retrouvé sur les routes, hein, puisque Dieu l'a appelé à aller prêcher l'Évangile. Il part sur les routes, et là, il se retrouve dans des situations hostiles. Avant, il battait les autres du haut de son piédestal, et maintenant, il se retrouve battu par les autres, à ne pas rendre coup pour coup. Il a connu probablement pour la première fois de sa vie la faim, la soif, le froid. Avant, il ne connaissait pas ça. Tout était bien pour lui. Mais en toute chose, il a appris à être content dans l'état où il se trouvait. Il a appris à se satisfaire de Dieu en toute chose. Il a appris à se réjouir en son Dieu, plus qu'en les biens qu'il possédait. Il a appris aussi que Dieu ne délaissait point, Dieu n'abandonnait point, même dans des situations extrêmes, difficiles. Il a appris à être content chaque jour de sa vie. Alors, il pouvait dire par expérience, c'est une grande source de gain que la piété et le contentement. Mais alors, comment avoir ce contentement? Comment apprendre le contentement? Comment être délivré de ce piège de la cupidité, de la convoitise? Alors, première chose, Paul nous dit, c'est de fuir l'amour de l'argent. Regardez versets 11 et 12. Versets 11 et 12. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et ce n'est pas de la lâcheté que de fuir ce que vous ne pouvez pas combattre et vaincre. Si vous ne pouvez pas avoir le dessus, mais Dieu nous dit « fuis, fuis ». C'est le contraire de l'intelligence. Hein. Et au même titre que la débauche, Dieu nous dit « fuis ». Et ça, l'amour de l'argent, Dieu nous dit « fuis ». Et nos maisons sont souvent pleines, et ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui compte pour nous? Quel est notre but, notre objectif? Plus de bien ou plus de piété? Il ne faut pas perdre de vue que notre vrai objectif en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire le but même de notre vie chrétienne, c'est de servir et de plaire à celui qui nous a rachetés. C'est ça le but, servir et plaire à notre Seigneur. C'est le plus important. Et si on ne pense qu'à servir, qu'à plaire, à ressembler à Jésus-Christ, alors on va user des biens de cette terre, mais sans y placer notre confiance, sans nous appuyer dessus et nous y accrocher à tout prix. Comme cet Indien là qui dit, lis-là, hein, prends tout, mais n'oublie pas qu'un jour tu rencontreras ton Dieu. Mais si par contre, on perd de vue le fait qu'on a été appelé à vivre pour Jésus, c'est ça le plus important. Alors, notre but va devenir matériel, bas et charnel. Et on va se retrouver soudain emporté par notre convoitise, les désirs insensés et pernicieux. Paul dit, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et voilà, il lui dit, mais mets les bonnes priorités dans ta vie. C'est quoi les bonnes priorités? Qu'est-ce qui compte réellement? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de remplacer à chaque fois le matériel qui fonctionne très bien? Parce que c'est ça aujourd'hui. Parfois, il y a des choses qui fonctionnent très très bien, mais il faut qu'on les remplace sans cesse. Ou bien c'est s'appliquer à rechercher les valeurs, les vertus qui sont précieuses pour l'être intérieur. La justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Paul dit « combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle ». Et il y a un combat, il y a une lutte. C'est pas facile de résister à tous ces assauts de l'ennemi de nos âmes. Et il faut se faire violence pour pas suivre le courant de ce monde et changer à chaque fois de tout ce qu'on possède. On pourrait très bien se laisser séduire, harponner à chaque fois par chaque publicité. C'est si facile de jouer leur jeu et de se laisser créer des besoins. Mais Dieu nous dit non. Combat le bon combat. Saisis les choses qui comptent réellement et saisis la vie éternelle. Qu'est-ce qui compte pour moi? Quel est mon objectif? Une deuxième chose à faire, elle se voit au verset 17. Un petit peu plus bas. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et là, dans ce passage, Paul nous enseigne plusieurs choses. Tout d'abord, qu'il ne faut pas s'appuyer sur ce qu'on possède. On l'a dit, on le redit, les biens, les richesses. Pourquoi ? Parce que ça aura toujours tendance à nous pousser à l'orgueil. C'est ce que nous dit Salomon dans les Proverbes. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Et vous savez, quand vous rencontrez des gens aisés, ils ne sont pas tous comme ça, heureusement, mais voilà, ça, ils se sentent sur un pied au-dessus, hein, piédestal. L'homme se sent en sécurité quand il a de l'argent de côté, beaucoup d'argent de côté. Il suffit qu'il y ait une certaine somme d'avance et il est plein d'assurance. Comme l'homme riche des évangiles pour qui les terres avaient beaucoup rapporté. Il s'est dit, je bâtirai des greniers, voilà, plus grand et toujours plus grand. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Il se sentait en sécurité parce qu'il possédait. Et c'était une folie. Qui d'entre vous n'a pas eu de côté? Et puis à un moment, pouf, il y a une foule d'imprévus. Et hop, les économies fondent comme neige au soleil. Et là, il ne nous reste plus la poire pour la soif. Alors c'est vrai, ça rassure, hein, d'avoir sa petite poire. Mais quand elle n'est plus là? Quand elle n'est plus là? C'est encore ce que dit un proverbe. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Et notre confiance ne doit pas se placer dans ce qu'on possède, mais en Dieu, dit la Bible, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Voilà, je m'appuie sur Dieu et pas sur mon bas de laine, sur Dieu. C'est le seul moyen d'être libéré du désir d'amasser plus pour être plus en sécurité. Si on compte sur le Seigneur, alors il sera là. Il sera toujours là quand on en aura besoin. La troisième chose à faire pour être délivré de la convoitise et apprendre le contentement, c'est de faire du bien autour de nous avec ce qu'on possède. C'est ce que dit le verset 18. Verset 18, il dit... Donc, il parle des riches, il dit « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Et Dieu ne nous donne pas pour qu'on se fasse sans cesse plaisir avec ce que nous possédons, ce que nous gagnons, ce que nous recevons. Ce qui guérit quelqu'un de l'égoïsme, c'est de chercher à faire du bien avec ce qu'il possède. Ça le libère de l'égoïsme. Et Dieu veut qu'on soit généreux avec nos richesses. Il veut qu'on pratique des bonnes œuvres avec ce que nous possédons. C'est ça qui guérit aussi de la convoitise. Chercher le bien des autres au lieu de notre propre bien. Dans 2 Corinthiens, on lit ce verset. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et on voit ici ce que Dieu veut dans l'usage des richesses. Il veut satisfaire à tous nos besoins. Et puis, après, avec le surplus, eh bien, qu'on fasse du bien. Au lieu d'en rajouter, en rajouter, en rajouter, non, on s'arrête. Et puis, allez, je vais faire du bien avec ce que j'ai en plus. Il ne dit pas qu'il veut nous combler pour qu'on utilise tout cet argent rien que pour nous, pour nos envies, pour toutes nos convoitises, hein, mais pour tous nos besoins. Et on se pose la question, est-ce que c'est un besoin? Et on devrait se poser la question avant d'acheter une chose, Seigneur, est-ce que tu veux que j'achète cette chose? Moi, je ne dis pas aller faire les courses, hein, mais des fois, voilà, il y a des achats conséquents, il faut se poser la question. C'est, voilà, on est au Seigneur ou on ne l'est pas? Et si on est au Seigneur, eh bien... Seigneur, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je devrais? On se pose ces questions. Il y a une conviction qui descend dans notre cœur. Dieu sait ce qui se passera la semaine prochaine. Et il vaut mieux l'écouter que s'écouter soi-même. Et puis, le monde nous pousse à vouloir posséder ce qui est luxueux, ce qui brille. C'est vrai, ils font des belles choses aujourd'hui, hein. C'est beau, quoi! Quand on aime ce qui est beau, il y a des choses, elles sont magnifiques, quoi. Hein? toute cette technologie, enfin je parle pour les hommes, souvent les femmes ne sont pas trop intéressées, mais vous avez vos choses aussi à vous, hein, qui sont belles, ce qui brille. Et on aurait tendance à vouloir suivre, mais on doit se fixer des limites, dire voilà, jusqu'ici et pas au-delà. Pas jouer le même jeu que la société de consommation qui n'a pas de frein et qui est prêt à dépenser des sommes folles pour ce qui n'en vaut pas la peine. Soyons sages. L'argent nous est confié, qu'on en fasse un bon usage, qu'on le dépense avec la sagesse qui vient de Dieu. Et quel meilleur usage que de vouloir faire du bien avec ce qu'on possède. L'égoïste, il n'a jamais un centime pour les autres. Pourquoi ? Parce que ben, tout sert pour lui. Alors que ben, celui qui pense aux autres, hein, il est généreux. Et il faut qu'on cultive cette générosité, cette libéralité. Et on trouvera le contentement. Ensuite, quatrièmement, il faut orienter sa vie vers la vie véritable. C'est le verset 19. Il dit... Donc recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Et Dieu veut qu'on fasse des bons placements. Où vous placez votre argent ? Dans quelque chose qui va disparaître ? Ou dans quelque chose qui restera éternellement. Il y a quelques années, il y a eu une tragédie avec un certain monsieur Thierry Villehuchet qui s'est suicidé. Peut-être vous vous souvenez plus, je vais vous rappeler l'histoire. Un homme respectable, 65 ans, qui avait une société de fonds d'investissement à haut risque. Et au sein de la crise, il était très content d'avoir placé la majorité des capitaux de tous ses clients chez un certain Madoff. Le seul gérant qui se sortait de la crise sur le papier. Et soudain, il a appris donc que ce Bernard Madoff était soupçonné d'une énorme fraude, 50 milliards de dollars. Et là, sa vie s'est effondrée. Et il n'est malheureusement pas le seul à s'être suicidé dans cette période. Beaucoup ont tout perdu. Parce qu'ils avaient tout misé, voilà, ils avaient des actions à 80 euros, et puis d'un seul coup, ouf, ça chutait à quelques euros. C'était la ruine, la ruine. Dieu veut que nous nous amassions un trésor placé sur un fondement qui n'est pas instable, mais stable. Un fondement solide. Il ne veut pas qu'on investisse dans ce qui rouille, dans ce qui se détruit, dans ce qu'on vole, dans ce que... Ça ne sert à rien. Et en étant libéral, riche en bonnes œuvres, généreux avec nos frères et sœurs et notre prochain, on investit dans des choses qui comptent, hein, investir dans les projets du royaume de Dieu, en nous plaçant entre les mains du Seigneur pour qu'il fasse ce qu'il veut. Voilà, prends tout Seigneur, je veux vivre pour toi. Là, on est en train de constituer un trésor, personne ne nous le prendra. On le retrouvera quand on entrera dans l'éternité. Paul dit « afin de saisir la vie véritable ». Voilà, quand on s'occupe des autres, on saisit la vie qui compte. Elle demeure, elle reste. Parce qu'on va développer le caractère que Dieu veut que nous ayons. Ça, c'est un changement durable, un changement intérieur. On va devenir un homme pieux, une femme pieuse, aimant le Seigneur plus que les biens de ce monde, heureux dans notre état. Quoi qu'il arrive, voilà, j'ai plus de sous, ma voiture est en panne, je suis heureux quand même. Hein? Ma voiture est vraiment en panne. Servons-nous nos biens pour la gloire de Dieu. Et on sera heureux, comme Paul, d'avoir combattu le bon combat, gardé la foi, saisi la vie véritable.